Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Édouard Brézin. Édouard, tu es physicien, ancien président de l'Académie des sciences, mais ça n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Tu es président, avec Jean Iliopoulos, du CODOS, et tu succèdes à Claude Cohen-Tanoggi.
Alors, première question, qu'est-ce que ce CODOS ?
Dans les prisons de Nantes, il y a un prisonnier, il y a un prisonnier.
De la même façon qu'on ne dit plus « droits de l'homme » mais « droits humains », CODOS est le sigle ancien de ce qui s'appelle aujourd'hui le Comité des droits des scientifiques, qui a été fondé en 1978. Mais dans un contexte qui, depuis plusieurs années, préparait sans doute la nécessité d'un comité de cette nature. Il y en avait eu très peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, dans les années 30, il y avait un comité Rapkin qui s'occupait des réfugiés du nazisme. De la même façon, il y a eu deux comités hors de l'Académie des sciences qui ont fait que l'Académie, finalement, a pris la décision de prendre les choses en main. Il y a eu un comité des mathématiciens. C'était l'époque de l'Union soviétique qui persécutait un certain nombre, beaucoup d'intellectuels, et en particulier des scientifiques bien connus de nos collègues. Il y en a un qui s'appelait Leonid Pliouch.
C'est l'occasion pour moi de recommander à nos auditeurs d'écouter le podcast que j'ai fait avec Michel Brouet sur ce comité.
Et voilà. Alors, donc ce comité où il y avait donc Michel Brouet, il y avait également de l'Académie, Cartan et Schwartz qui étaient...
Henri Cartan.
Henri Cartan et Laurent Schwartz, bon, qui ont joué un rôle absolument essentiel. Et puis après, c'est mélangé la répression contre les intellectuels et l'antisémitisme qui a ému beaucoup de gens. Il y avait tout ce mouvement des refusniks qui a beaucoup ému tous les scientifiques. Beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion, un dimanche à Moscou, de faire un séminaire devant ces malheureux qui avaient perdu leur emploi et qui cherchaient, une fois par semaine, à se retrouver et à échanger autour de la science.
Donc, ce comité, son but, c'est de s'informer sur les scientifiques en difficulté, d'exprimer publiquement un désaccord.
Et d'essayer de leur faire parvenir de la littérature scientifique, donner des informations sur l'évolution des sciences. Ils étaient coupés de tout, ils avaient perdu leur emploi et donc tout accès à la littérature scientifique. On va créer en 78 chez nous le CODOS, mais il y a eu un autre mouvement qui mérite d'être signalé, dans lequel Alfred Kastler a joué un grand rôle, un comité des physiciens cette fois-ci. Eux étaient très préoccupés par la situation en Amérique du Sud. C'est quand même, il faut se souvenir, nous sommes dans la période des Pinochet, Videla, de ces dictateurs d'Amérique du Sud qui persécutaient en premier lieu les universitaires. En 1978, Guigné, qui dirigeait pour nous nos relations internationales, et Edith Quéret, avec le soutien très actif de François Jacob, crée notre comité propre à l'Académie. Et je signale, je ne sais pas si c'est très politiquement correct, mais que malheureusement, les autres académies de l'Institut n'ont pas jugé cette action nécessaire. Nous avons maintenant, heureusement, un confrère de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Jean-Pierre Mahé, qui joue un rôle important parmi nous, de par sa connaissance du monde, en particulier de l'Extrême-Orient. un autre événement très important et capital, cette fois-ci est sous l'impulsion des biologistes. C'est François Jacob et ses amis prestigieux qui s'appellent Thorsten Wiesel, qui est un Suédois-américain qui a eu le prix Nobel aussi, et Max Perutz, qui a eu le prix Nobel aussi en Angleterre, tous ensemble créent, avec l'aide d'un juriste hollandais, l'IHRN, qui veut dire International Human Rights Union Network, pardon, of Academies. Donc, il y a maintenant 90 académies qui sont parties de ce réseau. Nous avons des réunions du réseau tous les 2 ou 3 ans. J'apprécie beaucoup de vérifier que l'espèce de relativisme dans lequel certains voudraient nous enfermer, consiste à dire « Oh, mais ça, ce sont des préoccupations de blancs, riches, etc. » Eh bien, quand on se rencontre avec l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie, etc., on constate que nos réactions face aux scientifiques persécutés n'ont rien de particulièrement blanche et capitaliste, comme certains voudraient nous le faire croire. Nous nous réunissons environ une fois tous les 2 mois. Nous intervenons sur les cas que nous avons identifiés, souvent avec l'aide du réseau international, qui a un secrétariat efficace situé à Washington, en fait, sur des cas qu'il faut instruire avec une certaine précaution, d'abord pour s'assurer que nous ne sommes pas victimes d'une fake news. Kéré me signale un cas où ils ont été conduits à intervenir pour un pseudo-chimiste en Union soviétique qui n'existait pas. C'était une fake news. Donc, on essaye actuellement, premièrement, de s'assurer de toutes les façons possibles que ce sont des cas avérés. Et d'autre part, il faut quand même s'assurer avant d'intervenir que nous ne mettons personne en danger. Leur famille, par exemple. Donc, il faut avoir un tout petit peu d'éléments de contexte et de contact. Et donc, si en ce sens-là, beaucoup de gens nous interrogent en disant « Mais pourquoi vous intéressez aux scientifiques ?» Alors, d'abord, scientifiques, on a élargi largement les ingénieurs, les personnels de santé, c'est très, très large, pas seulement les universitaires. Mais d'autre part, c'est parce que, par ces moyens, on espère arriver à une information fiable sur les cas persécutés. Quelle efficacité avons-nous ? C'est la question évidente. Ma réponse est, hélas, je n'ai aucun souvenir d'aucun de ces dictateurs qui jouent à mettre en prison les universitaires, qui nous ait écrit « Oh, comme vous avez raison, je le libère immédiatement ». Non, ça se passe jamais comme ça. En revanche, ce qui nous motive dans ces actions, ces lettres que nous écrivons aux dirigeants du monde, ce qui nous motive, c'est que les malheureux enfermés sont enfin libres ou ont enfin la parole. À chaque fois, de manière systématique, ils nous expriment combien il a été important pour eux de savoir qu'ils n'étaient pas oubliés au fond d'un cul de basse-fosse, qu'il y avait d'autres collègues dans le monde qui savaient ce qui leur arrivait, qui s'en préoccupaient et qui essayaient d'agir comme ils le pouvaient pour les sortir de là. La deuxième chose aussi, c'est que, à l'évidence, quelquefois, certains de ces pouvoirs autocratiques dont sont victimes nos collègues n'ont pas très envie d'apparaître aux yeux du monde comme étant des dictateurs aux yeux fermés et donc essayent non pas de répondre, mais de faire en sorte que la prison dans laquelle ils enferment ses opposants ne soit pas un mouroir. Donc, nous pensons que c'est nécessaire. Dis par toute la ville que demain vous mourrez. Oh,
oh. Dans les années 80, le monde universitaire, les étudiants en particulier, étaient extrêmement politisés et globalement de gauche pour simplifier. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. il y a une partie importante des étudiants ou de nos collègues tout simplement ne sont pas politisés. Comment tu ressens ça? Est-ce que tu ressens toi aussi cette espèce d'indifférence?
Je dois dire, au-delà de la question des scientifiques, c'est la perception de la nature des droits de l'homme. Beaucoup de gens nous disent, lorsque la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par les Nations Unies en 1948, une déclaration magnifique, il n'y avait pas encore beaucoup de pays aux Nations Unies, elle était très dominée par... les grands pays, qui étaient souvent des pays qui avaient connu des colonies, ceci ne concerne pas tous les nouveaux pays qui ont rejoint après. Et je dois dire qu'à travers ce réseau international dans lequel nous sommes, ça me permet d'essayer d'interroger nos collègues en disant « Mais est-ce que vous considérez que ces droits de l'homme sont de nature impérialiste, en quelque sorte ?» Et non seulement, en général, ils répondent « Ce n'est pas le cas », mais ensuite, je trouve qu'il faut aller plus loin et dire « Mais à quoi souhaitez-vous que nous renoncions dans cette déclaration ?» Intéressant de voir qui, en 1948, s'abstient lorsque c'est voté par les Nations Unies. Personne ne vote contre. Mais il y a un certain nombre de pays qui s'abstiennent. L'Afrique du Sud, c'est le temps de l'apartheid, donc l'égalité entre tous les hommes, ils ne veulent pas en entendre parler. L'Arabie Saoudite, parce que les femmes, elles ont, disent-ils, une dignité égale, mais pas les mêmes droits. L'Union soviétique et tous ceux qui dépendaient de l'Union à l'époque, Ukraine, Biélorussie, etc., vont s'abstenir en soutenant que le problème, ce n'est pas le droit de l'homme, mais c'est l'exploitation par le capitalisme. Alors qu'à l'évidence, ils ont des problèmes de droit de l'homme, je dirais encore plus importants à l'époque qu'ailleurs. Donc, je continue à penser que ces questionnements sur la justification de nos principes, je continue à rejeter ces interrogations. De la même façon que toutes les interrogations qui nous disent « mais un certain nombre de choses que vous rejetez sont culturelles ». Est-ce que l'excision des filles, c'est culturel? Je refuse, quand bien même il y a des cultures qui le pratiquent, je refuse de considérer que c'est un droit au nom de la culture. Voilà, nous essayons, malgré les doutes actuels sur ces principes, de nous y tenir, car je ne vois pas trop ce que nous avons d'autre.
Alors comment vois-tu l'avenir, non pas forcément du CODOS, mais de ce genre de comité?
Bon, d'abord, il y a des choses qui nous dépassent de loin. Est-ce que je sais, Amnesty International passe son temps à écrire par ses milliers ou millions de sympathisants des lettres un peu comme celles que nous écrivons. Donc, je pense que cette échelle-là n'est pas la bonne, en tout cas, n'est pas la seule nécessaire. Je crois que cette échelle des professionnels qui sont engagés dans des activités qui leur permettent d'avoir une connaissance directe de ces persécutions pourrait se généraliser ailleurs. Je vais revenir sur un exemple que tu connais parce que tu y as été associé de manière intime. Lorsque l'attaché scientifique de l'ambassade de Chine a voulu prendre contact avec l'Académie des sciences, tu y étais, a décidé de regarder quels étaient les scientifiques chinois pour lesquels nous étions intervenus au cours des dernières années. Et il y en avait beaucoup, pas seulement des Ouïghours, mais... beaucoup de ces malheureux Ouïghours persécutés, et vous avez transmis à cet attaché scientifique la liste des gens pour lesquels nous avions écrit en demandant que leur cas soit considéré, leur sort qu'il soit bien traité.
De manière discrète d'ailleurs.
De manière discrète. La réponse, et là tu es mieux placé que moi, a été l'indignation de cet attaché qui a dit « Comment ? Mais c'est une ingérence !» dans nos affaires internes. C'est vrai que le CODOS est une ingérence dans des affaires internes, mais est-ce qu'on peut considérer que ça signifie qu'on les laisse tranquillement faire leurs petites horreurs sans lever le petit doigt? Non, évidemment non.
Vous avez reconnu Edith Piaf et les Compagnons de la Chanson, qui chantent dans les prisons de Nantes cette vieille chanson française. Plusieurs versions de cette chanson. Dans celle-ci, on ne sait pas trop si le prisonnier se suicide ou s'il se sauve. 1946, c'était il y a longtemps.
Merci Edouard.
Je t'en prie.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.